Bonjour, cher François.
Bonjour, Clotilde.
Ça va bien?
Toujours
heureux d'être là tous les lundis matins.
Absolument.
Pour nous amener un bouquet de bonheur.
Mais écoutez, c'est joliment dit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde à nouveau. Et aujourd'hui, je vous propose trois belles histoires, trois destinations. Nous partirons tout d'abord au Sahara, puis nous mettrons le cap sur l'Indonésie et nous reviendrons par Bruxelles. Alors tout d'abord, sans plus attendre, nous partons au Sahara avec une belle histoire, l'histoire des femmes Toubou, dont je vais vous dire ce qu'elles sont dans quelques instants grâce à un article que j'ai recueilli sur le site d'Oxfam. Les Toubou, eh bien, c'est un peuple de nomades qui vit dans le Sahara oriental, c'est-à-dire au sud de la Libye et pour vous situer au nord-est donc du Niger. 650 000 personnes à peu près composent cette tribu, un peuple avec deux ethnies, les Daza, qui élèvent des chameaux, des bovins, et les Teda, éleveurs de chameaux, mais aussi de petits bétails, et plus nomades que les premiers, leurs campements sont toujours à proximité d'un puits. L'élevage, par contre, n'est pas suffisant pour nourrir la population. S'ils doivent parfois se résoudre à vendre une partie de leur cheptel, c'est vraiment en dernier recours. Alors, au Niger, les Toubou ont prévu une autre ressource, les dattiers. En effet, ils possèdent là-bas plusieurs palmeraies. Et tenons-nous bien, ce sont donc les femmes qui s'occupent de la récolte. Et pour ce faire, chaque année, elles partent pour un périple de 4 mois avec leurs enfants à travers le désert.
Incroyable.
Ça commence par 3 semaines d'une marche difficile, risquée, et puis c'est la récolte qui, elle, va durer environ 1 mois. Le ramassage, le séchage, l'empaquetage, et elles repartent en sens inverse vers les marchés afin de vendre la récolte de dattes, et cela pendant 1 mois encore, avant de reprendre enfin le chemin du retour. En tout, c'est près de 1500 kilomètres qu'elles vont parcourir à pied, à travers l'une des régions les plus difficiles et les plus arides du monde, qu'est le Sahara. Et malgré tous les dangers auxquels elles sont confrontées, les tempêtes de sable, évidemment, la chaleur cuisante, des orages qui peuvent être extrêmement violents, les morsures des animaux aussi, eh bien, elles le font année après année. Pourquoi ?
C'est fou, hein.
C'est parce que grâce aux revenus de la vente de ces dattes, elles pourront acheter les vivres et tout le nécessaire pour survivre une année entière. Alors, évidemment, un courage de fer, une détermination de véritable guerrière pour faire face aux dangers de ce périple, mais aussi aux imprévus. Il y a parfois des enfants qui naissent pendant ces 4 mois, en plein désert. Quand elles partent, elles laissent les hommes derrière elles, elles prennent les enfants, et elles retrouvent ainsi une indépendance économique et une liberté dans un voyage qui ensuite fera vivre des revenus toute la famille, les hommes inclus. Alors, c'est encore une fois une énorme leçon de vie que nous inculquent ces peuples, qu'on taxe souvent de primitifs, mais qui parfois pourtant nous dépassent en valeurs humaines. Et cette histoire, elle est intéressante parce que, à plus d'un titre bien sûr, mais aussi parce qu'elle nous montre le rôle et le pouvoir de ces femmes au sein des familles et au sein des communautés, dans des régions du monde où la culture ne les tient pas pour des êtres à part entière. Alors j'ai envie de boucler ce petit sujet, il n'a rien de petit, pardonnez-moi, ce premier sujet plutôt par une citation d'un écrivain africain justement, qui doit être, lui, très concerné par justement ce déséquilibre culturel du rôle de la femme. Et quand on voit, à travers cet exemple justement des femmes Toubou, ce qu'il peut être d'important, il s'appelle Amin Manaï et il écrit ceci. « La première fierté d'un homme, c'est d'avoir grandi dans le corps d'une femme.
»
Alors, tout de suite, nous mettons le cap sur l'Indonésie et très précisément Java, avec un sujet qui va vous intéresser tout particulièrement, ma chère Clotilde. Il y est question de livres. Vous qui animez cette belle émission littéraire sur Canal M. Alors, c'est avec un article de l'actualité que je vais vous raconter une autre belle histoire De quoi s'agit-il? Eh bien, l'imagination ne semble jamais manquer quand il s'agit de donner accès à la lecture et aux livres. Un projet, mené depuis bientôt 2 ans en Indonésie, attire maintenant l'attention. Ridwan Sururi vit à Java. Que fait-il là-bas? Il s'occupe de chevaux. Et 3 jours par semaine, il prend la route, avec l'un d'entre eux, et une bibliothèque. Il harnache une bibliothèque mobile sur le dos du cheval. Elle est baptisée Kuda Pustaka. Littéralement, c'est la bibliothèque de cheval. Alors Ridwan Sururi nous dit ceci. J'aime les chevaux et je veux que ce passe-temps puisse apporter des avantages aux gens. C'est ce qu'il disait à la BBC en 2015, la BBC Indonésie. L'idée de cette bibliothèque ambulante aurait pu ne jamais voir le jour si l'un de ses amis, Nirwan Arsuka, qui est également passionné par les chevaux, ne s'était pas enthousiasmé. Il lui a proposé de fournir les livres et il a donc expédié des cartons remplis de livres pour que l'aventure prenne vie. Notre ami Ridwan Sururi, eh bien, il est accompagné de Luna. Luna, c'est un cheval sauvage qu'il a apprivoisé pour l'occasion et qui est particulièrement tendre avec les enfants. Notre ami dit ceci. Luna n'a jamais donné un coup de sabot, n'a jamais mordu, et elle est très sympathique, surtout quand elle est entourée des enfants, nous dit-il. Alors le voici donc sur les chemins, avec sa monture chargée de livres, fournissant des bandes dessinées, des livres d'histoire aux plus jeunes. Les adultes, pour leur part, préfèrent les manuels pour cultiver des plantes ou réaliser des choses très pratiques. L'an passé, cet homme, âgé de 42 ans, rendait visite aux écoles de sa région 3 fois par semaine. Parfois même, il emmenait sa fille avec lui. Et la Kuda Pustaka est devenue un véritable symbole et aussi une modeste participation dans l'évolution de l'alphabétisation en Indonésie. Quant au propriétaire de Luna, ainsi que des autres montures dont Sururi a la responsabilité, eh bien, il ne s'est jamais opposé au projet, bien sûr, il le soutient même. Alors aujourd'hui, Sururi continue d'apporter aux quelques 120 élèves des établissements scolaires des livres. Lui-même expliquait ceci. « J'espère que je pourrai avoir un jour une petite bibliothèque en face de ma maison. Mais je sais que c'est peut-être qu'un seul rêve. » Alors, l'initiative ne manquera pas de rappeler celle menée en Éthiopie, où ce sont des ânes qui servent au transport des livres dans différents villages. Johannes Gibrogis, qui fait la route avec eux, expliquait que ce projet permet aux enfants de se familiariser à la maison, gratuitement, avec toutes sortes de livres. En outre, il contribue à la promotion de la culture et de la tradition de la communauté à travers les contes et les histoires, ce qui donne aux enfants des clés pour comprendre leur propre histoire.
J'adore. Et nous en avons aussi au Québec des gens merveilleux comme ça qui créent des choses pour que les mômes se mettent enfin à la lecture en sachant très très bien que souvent, ça, c'est par là que ça passe. Le regard sur le mot, sur la rythmique du mot, puis tout ça. Alors, c'est formidable de voir que partout dans le monde, eh bien, il y en a comme ça qui s'organisent pour que le livre soit toujours d'actualité, le livre papier. Et vous avez un troisième sujet pour nous ce matin.
Absolument. Nous quittons l'Indonésie et nous mettons le cap sur Bruxelles, la capitale belge. Alors j'ai d'autant de plaisir à vous raconter, à partager ce sujet plutôt ce matin, que la capitale belge, on s'en souvient, a été frappée au printemps par de tristes événements et que je compte parmi mes amis Facebook un certain nombre de personnes en Belgique. Alors ça me fait d'autant plus plaisir ce matin de partager ce sujet donc avec vous. Tous les 2 ans, à Bruxelles, il y a un spectacle éphémère qui prend place sur l'une des plus belles places du monde, qui est la Grand Place de Bruxelles. Alors, cette année, c'est le 20e anniversaire de cet événement qui s'appelle Tapis de fleurs. Il fallait en parler. Alors, tapis de fleurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le tapis de fleurs, d'abord, mesure 75 mètres de long sur 24 mètres de large. Et ce sont 1800 mètres carrés de bégonia, soit environ 300 fleurs coupées par mètre carré. Une centaine de bénévoles assemblent le tapis en 4 heures, et c'est donc tous les 2 ans, sur la Grand Place, depuis 1971. Ça se tient le week-end du 15 août, Et c'est donc l'occasion de flâner sur la Grand Place, qui est évidemment un trésor d'architecture gothique, même baroque, de respirer les bégonias, d'en admirer les détails. Un spectacle extraordinaire qui se complète par une visite sur le balcon de l'hôtel de ville, qui vous offre une vision évidemment au complet de l'œuvre. Un thème musical est spécialement composé à chaque édition. Un concert est donné sur la Grande Place tous les soirs et accompagne un son et lumière magnifique. Alors, tous les 2 ans, que se passe-t-il? Eh bien, une association sans but lucratif, qui s'appelle également Tapis de fleurs, réunit d'abord un comité de professionnels avec un illustrateur, un graphiste, un paysagiste. Et ils vont imaginer des projets à l'échelle, illustrant un thème différent à chaque édition. On a évidemment eu la commémoration des grands événements belges. On a célébré un pays, un continent, les armoiries d'une ville aussi. Une fois que le thème est retenu et qu'il est produit donc sous forme de maquettes et de symboles, le nombre de fleurs est calculé et les combinaisons des couleurs sont établies. Des centaines de milliers de fleurs sont coupées et elles sont évidemment nécessaires à la composition. Elles seront réservées longtemps à l'avance. Et puis, quelques jours avant l'inauguration, eh bien, un dessin grandeur nature est déposé sur les pavés de la Grande Place. Il est réalisé sur du plastique micro-perforé et les travaux peuvent alors commencer. Ce sera donc à Bruxelles pendant 4 jours, du 12 au 15 août prochain, une œuvre éphémère qui a le mérite de mobiliser un large public à chaque occasion. Mm-hmm. Une œuvre éphémère donc, mais qui, tous les 2 ans, avec les thèmes qu'elle célèbre, inscrit la Belgique un peu plus loin dans l'histoire et la projette comme une nation originale, audacieuse et créative.
Waouh, c'est absolument... Puis j'ai vu une photo de ça, mesdames et messieurs. Il faut imaginer ces centaines de milliers de fleurs, ce dessin. En fait, c'est comme un mandala de fleurs.
600 000 bégonias.
C'est ça. C'est vraiment comme un mandala de fleurs. Est-ce qu'on sait ce qu'on en fait après? Il ne nous reste plus qu'une quinzaine de secondes, mais quand c'est fané, on les enlève simplement?
Quatre jours plus tard, elles disparaissent.
Elles disparaissent. C'est ça, un mandala fleuri. Merci beaucoup, François, pour ces magnifiques images que vous nous mettez entre les deux oreilles. À la semaine prochaine.
À très bientôt.